Marcel Rivier, dimanche 9 août 1914.
Henri Jacquelin, 27 septembre 1915.
6 septembre 1916.
Jacques Froissart.
Michel Topiac.
Samedi 31 juillet 1915.
Chère femme.
Cher ami.
Julien écrit à ses parents le 15 octobre 1914. Avant de quitter Saint-Denis pour les lignes de feu, je tiens à vous dire mes dernières volontés. C'est avec conscience et en toute connaissance de cause que j'ai demandé à partir. J'ai voulu rester digne du nom de Christol.
C'est le seul et le plus bel héritage que vous puissiez nous transmettre. Vous nous avez toujours dit que nous devions accomplir notre devoir entièrement, malgré tous les sacrifices qu'il comporte. Le moment est venu. Il faut chasser les barbares, les massacreurs de femmes et d'enfants, ceux qui ont détruit l'héritage artistique de nos aïeux et qui ont voulu rabaisser l'homme au niveau des sauvages. Il faut chasser cela de notre belle France, et pas un Français né de trop. Tous, nous devons avec résignation donner notre vie à la patrie, tels les anciens et nos aïeux de 89. Restons dignes d'eux. Je pars avec votre bénédiction.
Gaston écrit à sa mère le samedi 25 mars 1916. Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus seulement 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois, et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver.
Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert, et personne ne pourra jamais savoir quelles transes et quelles souffrances horribles nous avons passées.
À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours sans boire et presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah !
J'ai bien pensé à vous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées.
Je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun, du 5 au 12 mars.
Est-ce un bonheur pour moi d'en être échappé? Je l'ignore. Mais si je dois tomber tôt ou tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les paroles que j'avais apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prière ne fut dite avec autant de ferveur.
Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois, Gaston.
Rhumatisme, goutte, gravelle, calcul, névralgie, migraine, sciatique, artériosclérose, obésité, empoisonné par l'acide urique.
L'acide urique, voilà l'ennemi! Tenaillé par la souffrance, il ne peut être sauvé que par
l'urodonal.
Car l'urodonal dissout l'acide urique. L'arthritique fait chaque mois ou après des excès de table sa cure d'urodonal.
L'urodonal nettoie le rein, lave le foie et les articulations en dissolvant l'acide urique, active la nutrition et oxyde les graisses.
Le professeur Lancereau, ancien président de l'Académie de médecine, recommande formellement l'urodonal dans son traité de la goutte.
L'urodonal prépare admirablement les cures d'eau minérale en drainant l'acide urique en excès.
Après la communication de l'Académie de médecine, l'urodonal est hautement puissant et absolument inoffensif.
Il ne peut être sauvé que par
l'urodonal.
Quoi ?
C'est Gaston qui écrit à son ami le dimanche 14 février 1915. Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves parsemées de riches fermes et jalonnées de meules de blé.
Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruine et une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là.
Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long des fossés ou des chemins creux pour éviter leur shrapnel ou le tac-tac de leur mitrailleuse.
La nuit, j'ai couché dans un tombeau neuf, puis on a changé de cantonnement et je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus.
Alien lifeform on board.
Occasion unique. Nous offrons ici à tous nos lecteurs le moyen de s'exercer et de se distraire sans jamais se lasser. Et ce, à des conditions exceptionnellement avantageuses.
Emergency.
Pour un prix dérisoire, nous expédions une carabine à air comprimé de fabrication parfaite et fournissant un tir d'une précision absolue. Elle se charge à volonté, à balle ou à flèche. On l'emploiera avec le même succès comme carabine de salon et en plein air pour chasser le petit gibier. Elle mesure 80 cm de haut.
Une boîte
contenant 500 plombs.
Une pochette
contenant 6 fléchettes.
100 cartons cibles.
Un mode d'emploi.
Une caisse
bois pour l'emballage du tout.
Prix franco, 10 francs.
End of transmission.
Lazare écrit à ses enfants. Le 7 août 1914. Mes chers petits-enfants, j'ai une suprême recommandation à vous faire. Aujourd'hui, vous êtes petits. Demain, vous serez grands. Prenez en considération ce que je vous écris. Respectez votre maman, obéissez-lui sans cesse, car c'est elle qui a la lourde charge de la mère et du père.
Prenez l'exemple de nous. Aimez-vous. Soyez loyaux et honnêtes, et vous serez heureux en ayant votre conscience tranquille. C'est à toi, Rosette, ma chère enfant, de donner l'exemple à Ernestine, ta petite sœur, et à Jean et Charles, tes petits frères, pour que vous preniez tous le bon chemin. Soyez tous bons enfants. Que mes larmes que je verse en faisant cette lettre vous inspirent de faire tout ce que je voudrais et que vous deveniez tout ce que je vous souhaite. Gardez précieusement cette lettre, souvenez-vous de votre malheureux père et suivez ses conseils. Lazare Silberman.
PS, surtout respectez votre maman. Évitez-lui tout chagrin qu'il pourra lui se présenter. Adoucissez-lui sa vie et faites-lui oublier tout ce qu'il pourra se présenter comme amertume dans la vie.
Maurice, pourquoi tu t'es engagé ?
Oui, Arnard, j'étais célibataire, sans famille et j'aime la guerre. Et toi ?
Oh, j'avais une femme, une belle-mère et j'aime la paix.
Décembre 1914.
Ma bien chère petite Alice, le jour de Noël, il nous en fait signe et nous en fait savoir qu'il voulait nous parler. C'est moi qui me suis rendue à 3 ou 4 mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler.
C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils, étaient mariés comme moi, ils avaient vu ma bague.
Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes bout doré. Je leur glissais le petit parisien en échange d'un journal allemand. Et je rentrai dans la tranchée française où je fus vite dévalisée de mon tabac boche.
Nos voisins d'en face tairent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris comme si on avait été dans la prairie Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leurs tranchées. Gustave.
Pendant 15 jours seulement,
15 jours seulement,
nous offrons une,
nous offrons une
lanterne magique complète,
haute de 20 cm.
Avec 6 vues en verre contenant chacune 4 sujets.
Pour le prix dérisoire de
1,75 francs franco.
Adressez commande et mandat
à l'épatant 3 rue de Recroy, Paris.
Eugène écrit à sa femme en mai 1916. « Ma chère femme, tu ne peux pas imaginer le paysage qui nous environne. Plus aucune végétation, ni même une ruine, ici et là. Un moignon de troncs d'arbres se dresse tragiquement sur le sol, criblé par les milliers et les milliers de trous d'obus qui se touchent. Plus de tranchées, ni de boyaux pour se repérer. Entre nous et les Allemands, pas de réseau de barbelés. Tout est pulvérisé au fur et à mesure de la canonnade. Mais plus actif que le bombardement, pire que le manque de ravitaillement, c'est l'odeur qui traîne, lourde et pestilentielle, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un immense charnier où seules d'immondes mouches gorgées de sang et de gros rats luisants de graisse ont l'air de se complaire. Tout est empuanti par les cadavres en décomposition, les déchets humains de toutes sortes, les poussières des explosifs et les nappes de gaz.
Marie écrit à sa femme, le 14 décembre 1914, 8h du soir, « Ma bien chérie, j'ai reçu ton télégramme. Que je suis content et inquiet. Comment vas-tu, chérie? Comment va notre fillette? As-tu bien souffert? As-tu pu avoir un médecin? Avais-tu trouvé une nourrice? Le télégramme est bien bref. »
Que j'attends des détails, je crains tant de choses. L'état d'esprit dans lequel tu vis depuis 4 mois et demi a pu avoir une influence malheureuse. Le souci peut lui nuire. Reste courageuse, ma chérie. Pense à notre fillette.
Comment l'appelles-tu? Fais-moi vite savoir son nom, qu'il me tarde de la voir, je suis impatient de revenir. Mais mon retour est encore bien loin, plusieurs mois certainement.
Cause-moi longuement d'elle dès que tu pourras le faire. Dis-moi tout, j'espère la voir, je veux la voir. Que je regrette qu'elle ne soit pas née 1 an plus tôt, fais-moi envoyer beaucoup de papiers à lettres pour que je puisse t'écrire longuement.
Sera-t-elle jolie? Que je voudrais qu'elle te ressemble. Hélas, je ne pourrais pas l'avoir toute petite. Je l'aime, vois-tu, je l'aime autant que je t'aime. Dis-moi, fais-moi dire beaucoup de choses d'elle. Pleure-t-elle beaucoup?
Toi, tu souffres, chérie? As-tu pu rédiger le télégramme toi-même? Non, sans doute, on l'a signé de toi pour me rassurer. Mais pourquoi cela irait-il? N'avons-nous pas assez d'épreuves sans cela? Tout va bien, n'est-ce pas?
Ouais, tu sais, c'est quoi au fait, là, le travail là qu'on a à en faire en français, là, il y a même brouillé.
Ah si, c'est le truc du sketch, là, avec la pub, mais faudrait peut-être s'y mettre, non?
C'est pas le truc d'appareil photo, là?
Mais si! Oh, oui. C'est pour demain.
Quoi? Demain?
Ouais.
Ah,
c'est ça. Attends, je le lis, tu te tais un peu.
Ouais,
un appareil détective,
si. Mais c'est là, nul, mais on a autre chose à faire, sérieux.
Ouais, j'avoue. Viens, on va réviser l'histoire.
Ouais.
Oh non, on fait quand même une dernière fois. Allez, on essaie de faire une dernière fois, j'essaye. Alors, occasion unique, le complet photo, pour le
prix. Là, je devrais faire la voix derrière, non?
Pour le prix incroyable de 10 francs. On est au Moyen-Âge encore. Oui, c'est parce que je disais.
Ah, bah oui, 10 francs.
Un appareil détective, 6 plaques, 2 viseurs. 2 viseurs?
C'est quoi ça? Mais viseurs de carabine?
Première qualité, 6 plaques. Il écrit 2 fois 6 plaques. 12 feuilles, ok, 3 cuvettes, des cuvettes.
Des cuvettes de toilette?
Un châssis presse, une lanterne rouge. Une lanterne pour des photos.
Non, une lanterne, okay. Tu sais, pour éclairer.
Oui, une lanterne. Oui, un flacon révélateur, un flacon... Je ne sais même pas quoi ça sert, ça.
C'est
un
flacon.
Paquet hyposulfite, c'est quoi ça?
Voilà.
2 cartes postales. Pour faire un appareil à photo, il faut des cartes postales.
C'est vrai, ouais, c'est trop.
D'accord, et un manuel de photographie. Ça sert encore, ok, bon.
On sait prendre des photos.
Ouais. Ouais, on arrête, on va réviser l'histoire.
Hein. Ouais, ouais, ça m'énerve, arrête, hein. C'est bon.
Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort, fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissons la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée. M'en fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort dans moi.
Eugène écrit à sa femme Léonie et sa fille le 30 mai 1917.
La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer un conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple, demain, avec 6 de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront.
Ne doutez jamais toutes les deux de mon bonheur et de mon courage, car la France nous a trahis. Et la France va nous sacrifier. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes, vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant.
Jean Renaud écrit à ses parents le 17 août 1914, lors de la bataille de Verdun.
Les lettres arrivent avec un retard de 8 jours. C'est justement pour cela qu'il ne faut pas vous faire de mauvais sang si vous ne recevez pas de nouvelles de l'un de nous.
J'espère que vos santé sont bonnes. Embrassez pour moi l'oncle et la tante. Qu'est devenue Marie-Louise avec son mari? Donnez-moi tous les détails que vous pourrez avoir.
Je vous quitte, chers parents, en vous embrassant bien affectueusement.
Votre fils qui vous aime.
Un véritable cinématographe, pas que j'en ai ma parfait.
Ce cinématographe peut aussi servir de lanterne magique.
L'appareil complet, accompagné de 6 films et de 6 plaques, est envoyé franco contre...
10 francs. Adressez commande et mandat à l'éléphant. 3 rue de Croquis, Paris. Adressé et commande mandat à l'épatant. 3 rue Rocro, Paris.
Pierre écrit à sa femme le 22 septembre 1916 à Verdun. Ma chère Edith, la vie ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent. Les parasites nous rongent la peau. Nous vivons dans la boue et nous envahit, nous ralentit et nous arrache nos grolles. Le froid se rajoute à ses supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous poursuit chaque jour. La nuit, il nous est impossible de dormir, être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre. Je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène, sans repos, sans joie, sans vie.
Cela n'est rien comparé aux trous morbides où il nous envoie. Sur le champ de bataille, on ne trouve que des cadavres, des pauvres soldats pourrissant sur la terre imprégnée de sang. Les obus, les mines détruisent tout sur leur passage, arbres, maisons et le peu de végétation qu'il nous reste. Tout est en ruine. L'odeur des charniers, le bruit des canons, les cris des soldats. L'atmosphère qui règne sur ce champ de carnage terroriserait un gosse pour toute sa vie. Elle nous terrorise déjà.
Si vous le vouliez, m'écririez à moi, jolie marraine, brune, blonde. Et moi, le lieutenant Armis, je serai pour vous le plus affectueux et le plus discret des filleuls. Écrire. Lieutenant Armis, 74e d'infanterie, par BCM, Paris.
Pierre écrit à sa femme le 26 novembre 1916. Ma bien-aimée.
Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions pour vous écrire depuis mon retour au front. Mais si je vous écris en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre.
La bataille de Verdun est la pire que j'ai connue, non seulement physiquement, car nous sommes restés 8 jours sans dormir, mais aussi mentalement.
La puanteur des cadavres est devenue insupportable, et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir.
Nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux, il n'y a pas de mots pour décrire cela.
Les maisons, les écoles, les églises...
Il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé par les marmites.
Les arbres sont aussi maintenant inexistants.
Il n'y a en fait plus aucune vie à cet endroit, car tuer des êtres humains, ce n'est pas une vie.
Le salut du vrai poilu, 12e division d'infanterie, état-major.
Le général commandant la division a constaté que d'une façon générale, le salut était gauchement exécuté par les hommes et médiocrement rendu par les officiers.
En conséquence et en vertu des dispositions prises par le haut commandement pour reprendre en main le moral de l'armée, le salut sera exécuté à la 12e DI, conformément aux prescriptions ci-dessous.
Premier temps, en vrai coq gaulois, se redresser vivement sur ses ergots, rassembler vigoureusement les talons, porter lestement la main droite dans la position du salut réglementaire, tendre tous ses muscles, la poitrine bombée, les épaules effacées, le ventre rentré. La main gauche ouverte, le petit doigt sur la couture du pantalon. Planter carrément ses yeux dans les yeux du supérieur. Relever le menton et se dire intérieurement.
Je suis fier d'être un poilu.
Deuxième temps, baisser imperceptiblement le menton, faire rire ses yeux et dire intérieurement à l'adresse du supérieur « Tu en es un aussi, tu gueules quelquefois, mais ça ne fait rien, tu peux compter sur moi. »
Troisième temps, relever le menton, se grandir par une extension du front, penser aux boches et crier intérieurement « On les aura les salauds !»
Le salut de l'officier.
Premier temps, envelopper le soldat d'un regard affectueux, lui rendre le salut, les yeux bien dans les yeux, lui sourire discrètement et lui dire intérieurement
« Tu es sale !»«
Mais tu es beau !»«
Je suis fier d'être un poilu !»